La vie du prophète Élisée. Alors, ça faisait longtemps qu'on s'était laissé avec les deuxièmes de la Bible. Vous vous souvenez, on avait commencé ça et on avait eu l'occasion de voir Aaron. Et puis, ce soir, je veux qu'on puisse continuer avec Élisée. Élisée est un homme, des fois on parle, comme je viens de dire, les deuxièmes de la Bible, mais les deuxièmes comme Élisée sont rapidement devenus des premiers, dans le sens qu'ils ont eu un rôle à l'avant-plan. Et Élisée veut dire « Dieu est salut ». Pourquoi étudier, je pose la question, deux petites questions en commençant. Pourquoi étudier les deuxièmes de la Bible? Pourquoi étudier ces personnages qui sont moins en vue? Quel est l'intérêt? Alors, on peut s'identifier rapidement parce qu'on a un mode de vie, un style de vie qui ressemble beaucoup plus à étant dans l'ombre qu'étant à l'avant-plan. OK, très bien. Quoi d'autre aussi? Quelle est la pertinence d'étudier ces personnages moins évidents dans les Écritures, Priscilla? OK, alors étant dans l'ombre, on peut voir leur caractère et tirer profit de leur bon coup comme de leur mauvais coup. Quand je dis tirer profit, d'éviter certaines situations. En quoi est-ce que cette étude peut nous aider à notre vie chrétienne? C'est une question semblable. Mais pour nous, aujourd'hui, là, dans notre vie chrétienne, quelle est la pertinence d'étudier ces personnages qui sont dans l'ombre? C'est ça? Alors, ça révèle, non, mais ça révèle ce que l'on est, plutôt que de désirer être quelqu'un ou quelque chose que Dieu ne nous a pas nécessairement donné. Pour faire l'introduction de Élisée, je vais faire rapidement la chronologie. Ça peut pas être beaucoup plus rapide que ça. Non? On a cette période des patriarches. Ensuite, évidemment, la période de l'Égypte. Ensuite, le 40 ans dans le désert. On a la période des juges. La période du royaume uni. Et ensuite de cela, sous Salomon, on a le royaume qui s'est divisé en deux. Je viens de passer tout droit, mais Élisée, dans cette période où le royaume est divisé, puis il est un prophète en Israël. Alors, il y a le royaume du nord et le royaume du sud, qui est Juda au sud, Israël au nord. Combien est-ce qu'il y a eu de bons rois en Israël au nord? Un gros zéro avec une barre. Aucun bon roi. Et on a des rois tristement célèbres, comme Achab. Élisée a côtoyé quatre rois, Achab, Joram, Akazia et Jéhu. Et on va en voir quelques-uns. Son ministère actif est de Élisée, particulièrement au temps de Akazia. On va le voir tantôt. Mais à travers Élie, au moment où ce que Élie et Élisée sont ensemble, ben c'est Achab qui est le roi à ce moment-là. Vous souvenez-vous dans quelles circonstances que Élie est allé chercher Élisée? Élie était dans cette période. Vas-y, Céline. Ouais, on pourrait dire ça de même. Tout de suite après la dépression, où Élie s'est dit « Je suis tout seul au monde ». Il était déprimé parce qu'il se disait seul que d'avoir être seul à lutter contre les prophètes de Baal, contre Baal. Puis là, Dieu lui a dit « Non, non, j'ai un reste encore. J'ai encore d'autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et là, tout de suite après, on va voir Élisée. On va lire le texte tantôt. Et à cette période-là, mais à la période du royaume du Nord, c'était une mauvaise période, de toute façon, pour la majorité du temps, puisque même aucun des rois était obéissant à Dieu. Élisée est dans un... Oups, excusez, je passe un petit peu trop vite, là. Élisée va avoir un ministère où il y aura l'occasion d'apporter le bien sur son entourage. Et avec la puissance de Dieu, là où il passe, mais la malédiction est ôtée. Puis on va en voir tantôt un exemple. Mais par exemple, on peut voir sous le ministère d'Élisée la veuve, un mort qui ressuscite, le mal qui est écarté, un lépreux guéri, et puis la famine aussi. Maintenant, le mode de vie d'Élisée était différent un peu de celui d'Élie. Le prophète Élie, lui, vivait à l'écart des hommes, près d'un torrent, dans une caverne, puis sur des chemins déserts. Au moment où ce que Élisée est joint avec Élie, ben sa formation, on va en parler un petit peu tantôt, sa formation, dans un sens, quand il suit Élie, se produit en suivant Élie dans ces contextes-là. Tandis qu'Élisée, on va le voir souvent dans les villes, dans les camps des rois, par exemple, chez une femme riche. Et puis, et là, on arrive, j'aimerais qu'on commence avec cet appel-là de Élie, où je vous invite à tourner dans 1 Roi, chapitre 19. On va lire les versets 19 à 21. Je voulais simplement brosser le tableau rapidement de Élie, de Élisée. Et dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 19, on voit comment est-ce que Élisée a été appelé. Je vous demande d'être attentif au texte que je vais lire, parce qu'après ça, je vais vous demander de m'expliquer ce qui vient de se passer, puis pourquoi ça s'est passé de même. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit, Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et Élie lui répondit, Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Avant qu'on se mette à discuter du texte, j'aimerais qu'on puisse placer ce temps devant Dieu. Seigneur, on vient devant toi pour que on puisse se placer devant toi puis qu'on puisse être attentif à ta parole, qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire. On veut apprendre à te connaître à travers l'intervention que tu as eue auprès de ces hommes-là, qu'on peut voir dans ta parole. On veut comprendre, Dieu, qu'est-ce que tu voulais nous laisser comme message et comment ça peut s'appliquer à nos vies aujourd'hui. On veut être attentif, Dieu, et puis viens nous parler à chacun d'entre nous pour qu'on puisse mettre ta parole en pratique. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. OK, alors qu'est-ce qui s'est passé? OK? Élie arrive, puis il lui met un manteau sur le dos. Quoi d'autre? C'est assez concis, hein, comme appel. On n'a pas tous les détails de ce qui est dit. Qu'est-ce qu'Élisée est en train de faire? Non, c'est ça. C'est pas rien. Alors, il labourait. Il est en train de prendre son temps, puis il est en train de labourer. Et là, Élie, il s'approche de lui, puis qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il jette son manteau? Il passe, c'est une façon de passer le flambeau. Ça a commencé là, l'expression, c'est passer le manteau, initialement, qu'on disait. Mais c'est l'idée de passer le flambeau. Pour cette époque-là, le manteau d'Élie, puis pour la suite du temps aussi, on voit que cet accoutrement était vraiment une façon que les prophètes utilisaient pour s'habiller. Tournez avec moi dans 2 Rois. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait tourner dans, j'ai 2-3 textes, Zacharie 13, 4? Un volontaire pour lire Zacharie 13, 4, Daniel? Matthieu 3, 4? Dans 2 Rois 2:8, juste avant qu'on aille dans les autres textes de Zacharie puis Matthieu, on, pour Élie, son manteau avait une signification particulière, comme je viens de dire, qui est associée au prophète. 2 Rois 2:8 dit « Alors Élie prend son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. » C'est au moment où Élie a frappé le Jourdain, puis qu'ils ont traversé à sec. Pourquoi est-ce qu'il a pris son manteau? Il est encore là le symbole du prophète que Élie avait. Zacharie, c'était qui? C'était Daniel, Zacharie 13, verset 4. « Alors, ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ces prophètes-là, qui étaient des faux prophètes, prenaient l'habillement d'un prophète et puis ils trompaient les gens par cet habillement-là, justement en apportant ces mensonges prophétiques, je peux dire, des fausses prophéties. Et puis, on a dans le Nouveau Testament de Matthieu, chapitre 3, verset 4. OK, alors comment est-ce qu'il était vêtu, Jean-Baptiste? C'est ça, manteau, poil de chameau avec la ceinture de cuir. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, on l'a vu pour ceux qui sont avec moi dans la classe du dimanche, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit, il y en a qui viennent pour vous tromper, puis ils s'habillent avec des vêtements de brebis, mais dans le fond, c'est des loups ravisseurs. C'est le contexte, c'est les prophètes là, dans lequel on parle de Matthieu 7, du Sermon sur la montagne. Alors, l'accoutrement d'Élie, quand que Élisée voit Élie arriver, puis mettre son manteau sur lui, pour un homme de cette époque-là, puis Élie était connu aussi à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Ben, il a compris assez rapidement qu'est-ce que Élie est en train de lui faire. Tantôt, je vais même vous suggérer que Élisée connaissait Élie. Et connaissait, bon, non seulement la réputation, mais devait le connaître même certainement en partie de façon personnelle aussi. Si on revient dans 1 Roi, chapitre 19, Élisée, quand il a reçu cet appel-là, parce qu'en fait, quand Élie lui a placé son manteau, il est en train de l'appeler à le suivre, à devenir son serviteur, son bras droit. Ce que Élisée a accepté. Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée, après avoir reçu son manteau? Il a couru. C'est ça. Il est allé dire au revoir à ses parents. Il est allé faire ses adieux à son père, sa mère. Il a pris la paire de bœuf qu'il avait, puis il est allé, verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœuf qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage. Pourquoi l'attelage? Parce que c'est du bois, puis c'était pratique pour brûler le sacrifice. Alors, dans 2 Samuel, on voit un exemple semblable où les attelages étaient utilisés pour faire les sacrifices. Et puis là, il s'en va le donner, et probablement qu'il fait un festin pour ce qui reste, et puis peut manger avec sa famille. C'est quoi l'attitude d'Élisée face à Élie? Quelle est son attitude? Il argumente pas. Comment voyez-vous Élisée face à Élie? Est-ce que, oh non, j'ai pas envie d'avoir ce style de vie-là? Ouais, il est prêt à prendre le relais, il est prêt à le suivre, même en courant. Et on va voir cette attitude-là qui va se répéter plus tard. Mais Élisée, il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Parce qu'il sait très bien qu'il va aller embrasser son père et sa mère, puis ça va être des adieux en quelque sorte, là, parce qu'il va quitter cette maison-là pour après ça suivre Élie. Puis on va voir jusqu'où est-ce qu'il va suivre Élisée, il va suivre son maître Élie jusqu'à la fin, hein, jusqu'au dernier moment qu'il va voir son maître. Comment est-ce que Élie a été formé? Je vais juste passer ce qui était... que j'avais ici, mais c'était l'appel d'Élisée, quand Élie l'a apporté. Puis maintenant, comment est-ce qu'il l'a formé? Je vous invite à tourner un peu plus loin avec moi dans 2 Rois. Chapitre 1. C'est ça, on ne sait rien. C'est la première information que l'on a d'Élisée, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, c'est assez bref. Et même Élie, quand Élie est arrivé, c'était très rapide aussi. Ce qu'on connaît d'Élie, c'est un tishbite. Et puis, il venait de cet endroit-là. Puis, rapidement, ce qu'on a comme écrit nous amène dans l'action là. Élisée a été choisi pour remplacer Élie, puis il nous est rien dit d'Élisée entre son appel puis l'enlèvement d'Élie. Le prochain événement qu'on va trouver, c'est quand que Élie va être enlevé. Alors, les deux ministères n'ont pas coexisté longtemps, mais on voit quand même que Élisée a été le serviteur d'Élie, et Élisée a été certainement formé par Élie. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire? Oui, vas-y. Entre son appel, oui, ben j'ai pas calculé l'indice de temps, mais il faudrait que je vérifie la chronologie, combien de temps c'est produit, mais c'est assez bref là. Mais il faudrait que je revérifie l'information. Dans deux rois, quelqu'un voudrait lire dans le chapitre 2, les versets 1 à 7, s'il vous plaît. OK, Mélissa. Juste avant, dans le chapitre 1, ce qu'on a, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, si vous regardez par exemple à partir du verset 1, juste là, 1 à 4 pour se mettre dans le contexte. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Akazia, il tombe malade, et là, il veut savoir, est-ce que je vais en guérir? Et là, Dieu dit à Élie: va dire à cet homme-là, à cette délégation-là, qu'il peut pas demander comme ça d'avoir des prophéties à son égard en utilisant Baal-Zébub. Puis là, il dit: est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël qui puisse intervenir pour toi? Et là, regardez le verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il ressemblait à quoi, ce gars-là? Et là, écoutez bien la réponse. Elle lui dit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie. Il est bien connu pour son vêtement de poils. Et là, Akazia, vous allez voir la suite. Je vais juste résumer l'histoire rapidement, parce que je crois personnellement que ça fait partie de la formation d'Élisée. On vient de voir que Élisée a dit salut à ses parents pour suivre maintenant Élie. Et il est où Élisée dans ce moment-là? On ne sait pas s'il est à l'extérieur, mais ça fait partie du moins de la vie du maître qui est en train de former Élisée. Et ce dernier événement-là important d'Élie, j'en suis convaincu que Élisée a été, si ça n'a pas été un témoin, qu'il a été formé par Élie pour savoir comment intervenir dans cette situation-là. Et regardez verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50. Il envoie un chef de 50 vers Élie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit: homme de Dieu, le roi a dit, descends. Souvenez-vous qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fait tomber le feu du ciel. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. Pourquoi Élie a fait ça? Accueillant. Pourquoi Élie a fait ça? Je l'ai... C'est un homme chaleureux. Ouais. Regardez verset 11. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Puis ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et lui leur répondit, Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. C'était quoi l'intention de ces hommes-là? Alors le roi, il vient par la force venir chercher Élie, puis descend de là, puis on veut te faire la peau. Et puis, si Élie est un homme de Dieu, savait-il quelles étaient les intentions? Est-ce que Dieu l'avertissait? Mais en tout cas, on peut comprendre par la suite, vous allez voir, à partir du verset 13, Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Et ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il avait entendu probablement les histoires précédentes, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Alors là, le verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Certainement que Élie avait été informé ou Dieu lui communiquait certainement les intentions de ces groupes qui venaient le chercher, et l'intention du dernier chef était différente. Il dit, épargne-moi, là, parce que je sais que tu es un homme de Dieu, puis j'ai entendu ta réputation, et je vais pas brûler là, là. Et puis, verset 16, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Voici le message qu'il envoie. Où est Élisée là-dedans? Son nom ne ressort pas, mais je suis convaincu qu'Élisée, s'il n'a pas été témoin de cet événement-là, il a été mis à son information de ce qu'Élie est en train de faire. Élisée est en train de voir son maître avoir cette parole qu'il donne au roi, avoir ce courage de confronter le roi selon la parole que Dieu lui donne. Et Élisée va avoir à jouer un rôle semblable envers le peuple, envers les rois. Et il devra user de courage en plusieurs occasions, comme Élie a dû le faire. Maintenant, dans 2 Rois, un volontaire qui voudrait lire les versets 1 à 7. C'était toi, vas-y Mélissa, s'il te plaît. OK. Alors, lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, voici le contexte qu'il est en train, l'auteur est en train de nous donner. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et là, il s'en va vers Bethel. Après ça, on le voit à Jéricho. Après ça, on le voit sur le bord du Jourdain. C'est quoi l'attitude d'Élisée par rapport à Élie? Il est collant? Comment voyez-vous Élisée là-dedans? Il va en apprendre encore plus sur lui. Regardez le verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Élie a dit, « Reste ici. » Puis Élie, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Élisée, il a dit, « Comme Dieu est vivant puis comme tu es vivant, je vais y aller avec toi. Je vais te suivre. Je vais t'accompagner. » Quoi d'autre? Comment voyez-vous l'attitude d'Élisée? Comment voyez-vous l'intérêt de cet homme-là qui est en train d'être formé par Élie par rapport justement à son maître? Il est dans le déni, là. Il n'a pas accepté encore. qu'est-ce qui se passe? Comme tu dis, est-ce que réellement il veut que son maître, est-ce qu'il est prêt à accepter que son maître s'en aille? On voit un homme qui est fortement attaché à Élie, à son maître. Et comme on vient de dire, regardez le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Parce que si tu ne sais pas, nous autres, on le sait, là. Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Et il le répète, il se fait poser la même question à quelques reprises. Alors, Élisée sait que son maître s'en va, mais il le suit, puis il l'accompagne. Et au moment où Élisée va être enlevée, vous souvenez-vous, la requête, on va la lire tantôt, mais Élie a dit à Élisée, « Qu'est-ce que tu demandes? » Souvenez-vous quelle était la requête d'Élisée? Une double portion. Et là, Élie lui a dit, « Tu vas l'avoir à une condition. C'est juste que si tu me vois partir. » Alors, jusque où Élisée allait l'accompagner, jusque où Dieu allait lui donner le privilège de l'accompagner aussi? Oui, Catherine? Son cœur était attaché à Élie, puis il ne souhaitait pas certainement cet événement-là, dans un sens, ou du moins, il disait aux gens, « Taisez-vous, je le sais. » Ces fils de prophètes sont des... c'est quoi? C'est quoi les fils de prophètes? C'est une bonne question, hein? On trouve pas ça souvent dans les Écritures. Les fils de prophètes sont de ces gens qui se rencontrent régulièrement, qui pour plusieurs vivent même aussi ensemble, qui se côtoient et qui étudient ensemble dans le but même de devenir, d'être prophète. Alors, ils font partie de l'école, on pourrait dire ça comme ça, de l'école de prophètes que Élie était le plus considéré ou le chef. Regardez avec moi le verset 12 pour voir quelle attitude avait Élisée face à Élie, par exemple. Il dit, on va lire tantôt là, au complet le verset, là, mais il dit, « Élisée regardait en criant, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il ne le vit plus. » Pourquoi est-ce qu'il l'appelait mon père? Ça voulait dire quoi? C'était de cette relation qu'Élisée avait avec Élie, justement comme dans cette expression de père où il était en autorité sur lui, où Élie était son maître, comme les fils de prophètes disaient aussi. Et ces fils de prophètes-là, et là, c'est parce qu'on peut pas voir toutes les occurrences aussi, mais à partir même de Samuel, on voit que il y avait ces troupes de prophètes, par exemple, qui même prophétisaient des fois avec les instruments ou en parole, et qui étaient sous la direction d'un maître, comme par exemple Élie. Élisée était particulièrement le serviteur de Élie, d'une façon encore plus proche. On a vu l'appel de Élie. On a vu que Élisée, dans son attitude face à Élie, au chapitre 2, dans les premiers versets, qu'il s'attache fortement à Élie, puis qu'il n'est pas prêt à le laisser partir aussi rapidement, aussi simplement. Même si Élie lui dit, reste là, il le suit. Même si les fils de prophètes lui disent, est-ce que tu le sais qu'il s'en va? Oui, je le sais, taisez-vous. Et là, on arrive à ce point où Élie va partir et que Élisée va prendre la succession. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire les versets 8 à 15, s'il vous plaît? OK. Quel a été le dernier événement marquant, à part l'enlèvement, là? J'imagine que ça devait être assez marquant, ça aussi. Quel a été le dernier événement en tant que prophète de Élie? Il a pris le manteau, puis il a fendu le Jourdain pour passer à sec. Quel a été le premier miracle qu'Élie a eu l'occasion de faire? Élisée, excusez, je confonds les deux souvent, j'espère que je vous mêle pas, là. Mais Élisée, ça a été le même miracle. Et ça a été une... Qu'est-ce que ça pouvait faire dans le cœur d'Élisée? Confirmer, oui, qu'il avait été exaucé. Quoi d'autre aussi? C'est quoi la requête d'Élisée? Avoir cette double portion. Et Élie lui a dit, si t'es là jusqu'à la fin, il dit, verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Pour Élie, qu'est-ce qui est sous son contrôle de pouvoir offrir ce type de requête-là? C'est uniquement Dieu qui peut répondre à ce type de requête-là. Puis pour Élie, en disant à Élisée, ben si Dieu te permet de me voir jusque-là, ça sera le signe comme quoi que Dieu est bien prêt à t'accorder cette requête-là. Mais est-ce que c'est une requête que Élie pouvait donner? Bien non. À votre avis, là, imaginez-vous que vous êtes à la place d'Élisée. Vous avez votre maître que vous suivez, que vous ne voulez pas laisser. Vous savez qu'il va partir. Et là, d'un coup, la cavalerie descend, le char de feu, les chevaux de feu descendent. Ils viennent chercher Élie, et puis il part. Puis là, on le voit partir dans le ciel. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête et dans le cœur d'Élisée à ce moment-là? C'est ça? Élie n'est plus là. Élie avait une autorité, il avait un rôle important en Israël, et puis là, il n'est plus là. Et c'est qui reste? C'est qui est reconnu même comme ayant l'esprit d'Élie? Ben, c'est Élisée. Les prophètes qui étaient restés de l'autre côté du Jourdain ont bien vu, quand Élisée a pris le manteau, puis que lui aussi a fendu le Jourdain, ben, c'est dit, maintenant c'est lui. Maintenant c'est lui, verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils reconnaissaient son autorité, certainement, que c'était maintenant lui qui était rendu leur chef. Comment est-ce qu'il pouvait se sentir de perdre son maître, que maintenant la charge, la responsabilité est sur lui, qui lui était pendant tout ce moment-là dans l'ombre d'Élie, et que là, Élie est parti? Regardez les versets 19 à 22, puis on va terminer bientôt avec ça. Élisée on le voit dans le tout début de son ministère, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Les gens sont venus vers Élie. En passant, au moment, si on recule quelques textes avant, là, quelques versets avant, les gens de la ville étaient venus voir Élisée, puis on dit, on a 50 hommes vaillants, là. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille fouiller la montagne tout à coup qu'Élie est tombé? Tombé du char. Et puis, c'est les versets précédents où est-ce qu'on voit ça. Et puis là, Élisée a dit, ben non, pas besoin. Puis là, ils ont insisté, puis ils ont dit, ben allez-y. Ils sont partis pendant 3 jours, puis ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé Élie qui était tombé. Et puis, Élisée leur dit, ben je vous l'avais dit, là, je vous avais dit de pas y aller. Mais là, maintenant, les gens de la ville arrivent auprès d'Élisée, puis lui formule finalement cette difficulté-là. Le séjour de la ville, il est bon, mais on a un problème, les eaux sont mauvaises. Et là, verset 20, il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Et il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Oui, il y a eu le Jourdain qui a été fendu, mais voici maintenant le premier signe ou la première parole qu'Élisée peut dire, et que là maintenant la ville peut bénéficier de ce que Élisée a pu faire sur cette ville-là. Qu'est-ce qu'on apprend d'Élisée au tout début de son ministère? Qu'est-ce qu'on apprend dans son caractère, dans son attitude, qu'on peut apprendre pour notre vie à nous aujourd'hui? Quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on a tous la capacité d'être des prophètes comme Élie ou Élisée? En tout cas, personnellement, je ne crois pas, là. Mais est-ce qu'on peut s'approprier l'histoire de ces personnages-là puis les appliquer à notre vie? Certains principes. Quel principe est-ce qu'on peut appliquer à notre vie dans Élisée par rapport à Élie qui était son serviteur? Oui, Céline. Ouais. 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 Élisée marchait sur les traces de son maître. Quel type de maître est-ce qu'il a choisi de suivre, Élisée? Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il pouvait lui faire confiance, il pouvait apprendre de lui, le regarder agir, écouter ses paroles, voir ce qu'il fait et dire, ben, je peux apprendre. Je peux apprendre. Je peux voir comment est-ce qu'il se comporte et puis reproduire ça aussi. Quelle leçon qu'on peut tirer pour nos vies aujourd'hui? Il a accepté la moquerie. Il a accepté le fait d'avoir ce style de vie qui allait être bien différent. Même, regardez, je ne sais pas si je voulais aller jusque-là, mais on peut conclure avec ces versets-là. Verset 23, « Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve! » Et il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Quel genre de moquerie est-ce que Élisée pouvait vivre? C'est pas simplement. Est-ce que Élisée avait réellement cette. Il était chauve de par ses gènes, ou il y avait plutôt une consécration à Dieu qui avait choisi aussi de se couper les cheveux. Quoi qu'il en soit, les adolescents lui disaient quoi? À part chauve, là, ils disaient quoi? Monte! Hein? Hey, regarde, on l'a vu, l'autre prophète aussi. Il est monté, là. Monte, toi aussi. Oui. Alors, Élisée s'est fait moquer de lui parce que tu disais qu'il a accepté certainement un style de vie qui a fait en sorte qu'il était un étranger. Et qu'en certaines occasions, oui, il pouvait être à la ville puis procurer du bien aux gens de la ville, par exemple, par l'eau qui est assainie. Mais il y a eu des moqueries aussi à cause de ce qu'il était. Jean-Baptiste, est-ce qu'il était populaire des gens? Il n'était pas très populaire, là. Il vivait dans le désert et puis il n'était pas très populaire. Élisée devait avoir une paix à cause de ce qu'il avait reçu. Ouais. Ouais, certainement. Certainement. Je suis convaincu qu'Élisée avait cette paix connaissant. Ouais. Oui, absolument. Il connaissait la fin d'Élie, mais il connaissait effectivement l'esprit qu'il avait reçu. J'avais vu Rebecca Thomas, puis après ça, on va terminer. Il servait Dieu avec la part qui lui était confiée, même s'il était dans l'ombre. Il était fidèle. Et oui, absolument. Oui, c'est un excellent commentaire. Et il y en a d'autres qui ont été formés comme ça dans le secret, puis on va en avoir d'autres. Mais Joseph a été formé par Dieu en prison. Moïse a été formé, oui, en Égypte, parmi les grands, mais Moïse a été formé aussi à garder les troupeaux de son père, de son beau-père, dans le désert. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies, même si on est dans l'ombre, même si on n'est pas sur un avant-plan? Certainement que Dieu veut nous utiliser avec la part qu'il nous donne et qu'on a de ces exemples-là, comme il disait par rapport à Élie, où on peut apprendre de leur vie puis le mettre en pratique aussi dans nos vies. Seigneur, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer pour l'amour que tu as pour nous, Dieu, au point où ce que tu veux nous communiquer ta volonté, nous communiquer ta parole. On veut te dire merci, Dieu, pour cet homme, certainement Élie et aussi Élisée, lesquels on peut te voir, Dieu, à l'œuvre à travers eux. On peut voir leur caractère et voir qu'est-ce que tu t'attends de nos vies aussi? Qu'est-ce que tu désires qu'on mette en pratique? Et Dieu, avec ce que tu nous as confié, ce que tu nous confies, quelle que soit l'exposition que tu veux que l'on ait, on veut en même temps être à ton service. On veut mettre en œuvre ce que tu nous as donné, ce que tu nous prêtes. Et tout cela, Dieu, pour que toi seul tu sois glorifié, pour que toi tu puisses être élevé. Nous allons ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.